À Rencontre spirituelle, aujourd'hui, il sera question de Saint Abbon, qui est peu connu malheureusement et qui est un très grand abbé bénédictin, extrêmement savant, une des lumières des années qui ont précédé l'an 1000. Il est mort d'ailleurs en l'an 1004, martyr, transpercé par une lance. Étrange mort, étrange vie aussi. C'est une vie qui pourrait servir à faire un film dans le genre un peu du roman de la Rose d'Umberto Eco. Ce grand roman paru chez Grasset qui a plus de 500 pages et qui a été si lu, n'est-ce pas, au début des années 80, qui était très populaire, le nom de la Rose, c'est pas le roman de la Rose, pardon, le nom de la Rose, ce roman de Umberto Eco. Eh bien, Saint Abbon a eu une vie étrange, vivant des événements absolument exceptionnels. Il faut d'ailleurs se rapporter peut-être à ce beau livre qui s'appelle « La philosophie au Moyen-Âge, des origines prêtristiques à la fin du XIVe siècle » d'Étienne Gilson, ce grand Étienne Gilson, qui enseignait à Toronto quand j'étais jeune, lui, ce Français, qui était très réputé en France et qui nous a donné de bonnes conférences à Montréal. Oh, il y a bien 50 ans, ça. Et il a publié ce livre très important sur la philosophie. Il raconte à un moment donné que la France était ravagée par des guerres. Il y avait les Normands qui envahissent le pays, la France, parce que la Normandie était séparée. Ils remontaient le cours des fleuves, dit Étienne Gisson, puis ils dévastaient tout sur leur passage. Et il ajoute, il semble qu'on revienne alors au temps tragique où l'invasion des Francs avait menacé de ruine la civilisation gallo-romaine dont je vous ai parlé, en parlant de Saint-Léon le Grand, vous vous souvenez, hein? Et la documentation elle-même, dit Étienne Gilson, devient rare, et quelques aspects de cette époque qu'on étudie, bien on s'arrête devant ce que les historiens nomment parfois le trou du Xe siècle. Alors la vie de Saint Abbon se déroule justement dans ce trou du Xe siècle, une époque extrêmement pénible, Dark Ages, comme disent les Anglais, du Moyen-Âge. Eux, ils englobent tout le Moyen-Âge dans ce Xe siècle, c'est dommage. L'activité, dit Étienne Gisson, en effet, l'activité des écoles, les endroits où on enseigne vraiment la philosophie, c'est ça les écoles, qui sont attachées à des monastères, semble avoir été partout gravement atteinte, puis la pensée philosophique paraît se subsister qu'à l'état de vie ralenti dans les cloîtres. Les monastères ont été les gardiens de la civilisation et Saint Abbon est un des maîtres. Et on parle surtout des monastères de la congrégation des bénédictins réformés de Cluny. Et Saint Abbon était justement un bénédictin réformé de Cluny. Et cette congrégation, dit Étienne Gilson, prend naissance au commencement du siècle. Au commencement du Xe siècle. Elle commence à éclairer l'Église dans ce trou du Xe siècle et l'abbaye de Cluny puis les monastères qui en dépendent vont devenir de grands monastères fantastiques au XIe et XIIe siècle. Étienne Gisson ajoute, il convient de signaler l'école claustrale de Fleury-sur-Loire. On appelle Fleury-sur-Loire, on appelle ça maintenant Saint-Benoît-sur-Loire, c'est un monastère très connu, de la congrégation de la pierre qui vire, c'est pas de la congrégation de Solems. En France, évidemment, c'est là qu'on garde d'ailleurs, dit-on, des reliques importantes de Saint-Benoît. À Saint-Benoît-sur-Loire, dans la crypte, c'est à visiter. Alors, l'école claustrale de Fleury-sur-Loire doit être signalée, selon Étienne Gilson, comme le lieu de la culture littéraire, philosophique, et théologique la plus florissante, elle était dirigée par le moine de Cluny, Abbon, Saint Abbon, dont je vais vous parler aujourd'hui, mort, comme je vous ai dit, en 1004. Il a connu l'an 1000. Et l'on enseignait, dit Étienne Gilson, outre la doctrine des pères, on enseignait la grammaire, la dialectique et l'arithmétique dans cet endroit, à Saint-Benoît-sur-Loire. Le nom d'Abbon, dit Étienne Gilson, mérite une mention spéciale, parce que son enseignement, comme celui de Gerbert, semble avoir marqué un progrès dans l'étude de la logique. Il n'y a rien comme d'être logique, je pense, c'est très important. C'est donc une histoire étrange que je vais vous raconter à une époque terrible. Quand on parle du bon vieux temps, hein, il faut voir aussi que dans le bon vieux temps, il y a des moments très difficiles. C'est donc l'histoire d'un abbé martyr, Saint-Abbon, abbé de Fleury, ou Saint-Benoît-sur-Loire, et martyr. Abbon est né dans les environs d'Orléans, vers 940. Ses parents avaient des noms très étranges, je vous les signale, parce que ça vaut la peine, c'est amusant. Son père s'appelle Lié, L-Y-E accent aigu. Oui, L-Y-E accent aigu, Lié, c'est son père. Sa mère s'appelait Ermengarde, E-R-M-E-N, garde. Ils sont de condition modeste. Ils amènent donc leur fils, encore enfant, à l'abbaye de Saint-Benoît, de Fleury, le Saint-Benoît-sur-Loire. On faisait ça lundi, je vais vous parler de Sainte-Gertrude. Elle a été amenée au monastère à l'âge de 5 ans. Mais vous, ça les empêchait pas de devenir des saints, même s'ils étaient tout enfants quand ils entrent au monastère. Alors, il est bien accueilli, heureusement, par l'abbé Vulfade, qui vient d'être élu. Et qui sera abbé pendant plusieurs années, de 949 à 962. Il va beaucoup influencer notre petit Abbon, pendant 13 ans. Abbon, donc tout jeune, reçoit les leçons de deux bons maîtres. Il y a un moine, Gombeau, dont il est souvent question dans l'histoire monastique, et un prêtre, Ségulier, Christian. D'après son biographe, qui s'appelait Aimoin, un drôle de nom encore, A-I-M-O-I-N, Aimoin. C'est son disciple aussi, bien c'est Abbon, est aussi appliqué à la prière qu'à l'étude. Il aime les deux. Un vrai bénédictin, quoi, la prière et l'étude. Je suis fier de faire cette émission aujourd'hui, je m'excuse de parler de moi, là, deux secondes. Ça fait 50 ans que j'ai fait ma profession d'oblat séculier de Saint-Benoît-du-Lac, ce monastère auquel je suis toujours attaché au fond de mon cœur. Et je vous invite, ceux qui le souhaiteraient, à être oblat de Saint-Benoît ou de Sainte-Marie des Deux-Montagnes. Ne vous gênez pas. Il y a des femmes qui sont oblates à Saint-Benoît-du-Lac. Il y en a même qui viennent des États-Unis et d'Europe. On peut être comme ça attaché à un monastère. Ça n'engage à rien. On reçoit de la documentation. On prie. On s'unit à la prière des moines et à l'esprit bénédictin. Bon, c'est terminé. Je ne parle plus de moi. Bon. Abbon est aussi appliqué à la prière qu'à l'étude. Il retient tout ce qu'il entend. C'est un éloge de son disciple qui est un peu naïf, si l'on veut, mais on peut pas douter que Abbon a été un très bon élève puisqu'il a reçu de bonne heure la mission d'enseigner la lecture et le chant très jeune. Les maîtres de l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire lui enseignent tout ce qu'ils savent. Alors il apprend à une époque sombre, hein? Je vous l'ai dit, c'est sombre à cette époque. Il apprend la grammaire, l'arithmétique et la dialectique. Abbon n'est pas encore content, il se rend à Paris et à Reims pour s'initier à la philosophie. C'était normal, les moines sortaient de leur monastère pour aller étudier seulement. Alors, il s'intéresse aux sciences. Et à cette époque, il n'y a pas de bonnes écoles, alors Abbon s'en aperçoit, puis il revient déçu. Il a pu acquérir quelques notions d'astronomie, mais pas autant qu'il l'aurait voulu. À Orléans, il vient de cette région, il rencontre un clerc, auquel il paie très cher ses leçons de musique. Et comme il n'y a pas de professeur bien honnête, là, il cesse de payer comme ça très cher, et puis il apprend la rhétorique tout seul, oui, tout seul, en lisant. Et tout seul encore, il apprend la géométrie. Il a vraiment énormément de talent, cet Abbon. A-2-B-O-N, Abbon. Ainsi, par son intelligence et sa ténacité, Abbon réussit à surpasser ceux qu'alors on considérait comme les plus savants. Et ses connaissances sont encyclopédiques. Il est au courant d'à peu près tout. Mais il a une prédilection pour la logique, qui est la matière qui prépare à l'étude de la philosophie. Puis il aime aussi les mathématiques. Curieux pour un moine. C'est-à-dire qu'il est assez cérébral. Ce serait exagéré de dire que Abbon est un grand génie, parce que cette époque, je vous le répète, n'est pas aux grandes synthèses. Hein. L'activité intellectuelle dans ce moment, au Xe siècle, avant l'an 1000, est si ralentie que la tâche la plus urgente est de la réveiller, cette activité intellectuelle qui s'est comme endormie. Or, c'est là le rôle d'Abbon. Il est très important son rôle à cette époque dans ce sens-là. Et c'est donc contraint par les circonstances que notre Abbon se met à composer des ouvrages. Il est moine, il n'est pas prêtre encore. Il compose des livres d'enseignement d'abord, puis quand il deviendra abbé, bien là il sera prêtre, il va composer des livres de polémiques, les uns et les autres beaucoup plus destinés à préciser puis à éclairer les idées reçues qu'à les faire progresser. C'est un peu stagnant tout ça. Vers 975, donc il a à peu près, disons, 35 ans, à peu près ça, 35 ans seulement, il est devenu un maître. Personne mieux que lui ne peut s'occuper d'enseigner vraiment puis de remplir la charge d'écolâtre au monastère de Saint-Benoît-sur-Loire. Au Moyen-Âge, un écolâtre, c'est un ecclésiastique qui dirige l'école qui est attachée à la cathédrale ou au monastère et qui surveille les maîtres d'école, même de tout le diocèse. Alors, il y reste pendant une dizaine d'années, durant lesquelles il écrit la plupart de ses traités scientifiques, avant tout pour satisfaire aux besoins de son enseignement. Il étudie la logique dans la traduction puis le commentaire de Boès, que Boès avait donné d'Aristote, là. Puis, il compose lui-même, vers 978, des traités sur la théorie des syllogismes. Et puis, l'archevêque d'York, à un moment donné, entend parler de lui en Angleterre comme étant quelqu'un d'extraordinaire. Cet archevêque, qui s'appelle Oswald, demande à l'abbé du monastère de Fleury, là, de lui envoyer un écolâtre. Et le nouvel abbé, et il est abbé depuis 1985, il désigne Abbon. C'est un choix étrange si l'on considère qu'il se trouve à priver le monastère de Saint-Benoît-sur-Loire de son moine le plus remarquable. Mais ça s'explique bien, disent les bénédictins de Paris qui ont écrit le texte que j'ai ici sous la main, là. Ça s'explique bien car ça permet au nouvel abbé d'écarter une personnalité trop puissante et qui risque de l'éclipser. Alors Abbon accepte sans enthousiasme, il obéit à son abbé, puis il part à l'automne de 985 pour l'Angleterre, puis il se rend à 800 pour s'embarquer, puis la mer est mauvaise, aucun bateau n'ose partir, et au bout d'un mois d'attente, Abbon perd patience, puis il déclare, s'il plaît au Dieu Tout-Puissant, par les mérites de notre Saint-Père Saint-Benoît, que je parte bien la mer pour l'utilité, que je passe la mer pour l'utilité des Anglais, mais que la mer se calme dès demain, et si cela ne plaît pas aux créatures souveraines, bien je prendrai le chemin de retour à mon monastère. Et là, le lendemain soir, au crépuscule, il y a une flottille de 9 navires qui prend le départ. Quand elle est au large, on voit soudain des marsouins ainsi que des baleines, dont le dos semble être de grands toits, dit-il, et c'est ce qu'il écrit. Et c'était l'annonce à tempête, puis elle s'élève bientôt, puis elle détruit 6 bateaux. Mais heureusement, Abbon aborde en Angleterre, et puis il fait la connaissance déjà de l'archevêque d'York, Oswald, qui a fait, lui, c'est un moine, il avait fait profession au même monastère de Saint-Benoît-sur-Loire, mais il avait dû rentrer en Angleterre, et puis il a été nommé évêque au début de Worcester, puis ensuite, en 972, archevêque d'York, et c'est là qu'il va enseigner à York notre Saint-Abbon. Alors nous sommes de retour avec Saint-Abbon, et l'archevêque d'York en Angleterre, qui est tout heureux, il veille sur ses monastères, et puis il est enchanté de recevoir un écolâtre, bénédictin comme lui, qui est déjà célèbre, et qui n'a pas peur des responsabilités, cet Abbon. Abbon nous a laissé d'ailleurs un précieux témoin de son enseignement en Angleterre. Ce sont les questions grammaticales, ce sont des réponses à des questions variées posées par des élèves. Et c'est un peu sous forme de dialogue, c'est assez particulier. Saint-Abbon est donc accueilli en Angleterre comme un grand personnage. Il est un grand personnage. Imaginez que 1000 ans après, personne ne se souvient de lui, sauf vous et moi. C'est assez surprenant. Puis Étienne Gilson, dans son livre, c'est tragique. Les gens importants, très importants comme Saint-Abbon, disparaissent dans la mémoire des hommes. Le roi, imaginez le roi d'Angleterre, Ethelred, le reçoit, mais il se contente de bonnes paroles. Tandis que le comte Elwin, lui fondateur de l'abbaye de Ramsey, le traite avec grande révérence, il lui fait des cadeaux. Et Oswald, l'archevêque de York, ainsi que son maître et ami Dunstan, ou Dunstan, archevêque de Canterbury, c'est pas n'importe qui, c'est le grand siège de l'Église catholique d'Angleterre, qui est devenu malheureusement le chef, le siège de l'Église séparée anglicane aujourd'hui depuis le 16e siècle. Dans ce temps-là, c'était un archevêque catholique. Mais ils l'honorent tous les deux de leur amitié, puis ils essaient de le garder, Saint-Abbon, comme un bon artisan de la réforme monastique, pour réformer les monastères. Parce que eux, ils savent ce qu'ils veulent, réformer les monastères. Parce que c'est pas facile. Faut vous dire que depuis Saint-Benoît, en 540, quand ça commence, les bénédictins, il est entré dans les monastères. Beaucoup de gens qui étaient très grossiers, très simples, c'était une époque très difficile. Et souvent, les moines sont gros gens comme devant, sont décadents. Il faut toujours réformer, puis réformer, puis réformer, puis surgissent des saints là-dedans, mais c'est pas facile, c'est une époque dure. Et avant l'an 1000, vous allez voir, il y a des moines qui sont pas faciles non plus. Comme quoi, aussi, il est mieux de vivre au 20e siècle malgré tout. Alors, il aime mieux les bords de la Loire, notre Saint-Abbon. Il se sent partout en exil, et particulièrement à York, quand son abbé lui écrit une belle lettre pour l'inviter à revenir à Saint-Benoît-sur-Loire. Saint-Abbon n'a aucune envie de refuser d'obéir. Ses anciens élèves regrettent leur maître. Ils ont dû probablement faire une pétition pour le revoir après quelques années, et lui-même ne désire rien autant que revoir son pays natal, l'Orléanais, puis les bords de la Loire. Il n'est encore que diacre toujours. Et alors, Oswald, l'archevêque d'York, décide de l'ordonner prêtre pour le garder. Il lui offre tous les objets liturgiques qui vont lui être désormais nécessaires. Et l'archevêque de Canterbury, Dunstan, là, ou Dunstan si vous voulez, et tous ceux qui ont bénéficié de son enseignement, ben ils multiplient les cadeaux. C'est pas croyable tout ce qu'on lui offre à ce pauvre moine bénédictin. On lui offre des colliers d'or, imaginez. C'est invraisemblable. Là, on est juste au 10e siècle. Là. Il faut se mettre à l'époque, il y a plus de 1000 ans. Là. On lui offre des vêtements sacerdotaux. Bon, ben c'est normal. Un calice d'or. Bon, ben ok. Mais des pièces d'argent, etc. Alors d'Angleterre, Saint-Abbon rapporte en se rendant dans son monastère original de Saint-Benoît-sur-Loire, il rapporte aussi quelque chose d'un peu spécial, c'est un embonpoint considérable. Comment ça se fait qu'il a grossi comme ça? C'est que la nourriture est un peu plus abondante en Angleterre, surtout auprès de l'archevêque d'York. Puis, il y a la bière anglaise, et la bière l'a fait grossir. Je veux pas vous scandaliser. Et notre Saint-Abbon supporte joyeusement son obésité, heureusement, un peu comme saint Thomas d'Aquin. Il ne la considère pas comme une tare, parce que saint Thomas d'Aquin était très gros. Hein. Mais ça le fatigue beaucoup. C'est dur pour lui de transporter tout ça, comme il dit. Alors, quand Saint-Abbon rentre en France, il y a un nouveau roi en France, c'est Hugues Capet. C'est le début des Capétiens. Il a profité de la mort du roi Louis V, le dernier roi carolingien, descendant de Charlemagne. Il s'est fait élire, Hugues Capet, le 1er juin, puis sacré le 3 juillet de l'an 987. On approche toujours de l'an 1000. Naturellement, Charles de Lorraine, qui est le frère du défunt Louis V, celui qui est mort, là, et puis son héritier légitime, ben, Charles de Lorraine proteste violemment. Il est pas content que ce soit Hugues Capet qui devienne roi qui s'est fait élire. Alors, il se met en guerre pour reprendre le pouvoir par la force. La mort du père abbé de Saint-Benoît-sur-Loire, survenue sur ses entrefaites, attire l'attention des deux compétiteurs, le roi Hugues Capet puis Charles de Lorraine, parce que les rois, les pouvoirs laïcs avaient toujours la main mise sur les abbayes. Et saint Abbon, c'est pour ça que je vous raconte un peu sa vie, c'est que c'est lui qui a libéré le mieux et le plus les monastères de toute cette épouvantable prise de possession par les pouvoirs civils. Eux, ils veulent mettre la main sur cette abbaye royale de Saint-Benoît-sur-Loire, ou Fleury, si vous voulez, où ils se reconnaissent l'un et l'autre le droit d'intervenir. Hein. Quelques moines ne veulent pas de Saint-Abbon, qui est soutenu par la majorité, heureusement. Abbon finit par l'emporter, grâce à l'appui du roi Hugues Capet, et ce choix est excellent. Faut pas s'étonner, donc, de voir Saint-Abbon un champion des libertés des moines. Lui qui est élu grâce à l'intervention royale. Il fait un partage, quoi. Il essaie de faire pour le mieux. Et les moines, dans ce temps-là, sont très souvent attaqués par des seigneurs avides et cupides, les sujets des rois, là, qui considèrent les monastères comme des proies riches et faciles où ils vont chercher les récoltes et de l'argent. Les moines demandent donc protection au pape et au roi, qui sont trop contents l'un et l'autre d'accroître leur propre autorité, le pape et le roi, en défendant leurs sujets fidèles, les moines, contre des seigneurs qui sont plutôt indociles et avides. Cette politique fait des moines, on pourrait dire, les plus précieux auxiliaires des tendances centralisatrices de l'Église, le pape et de l'État, le roi. Évêques et petits seigneurs égoïstes, souvent unis par la cupidité, créent aux moines toutes sortes d'ennuis. Alors il faut que le roi puis le pape interviennent. Mais c'est Saint-Abbon qui veut avoir l'autorité pour se défendre vraiment. Alors il se défend, lui, il le fait vaillamment et loyalement. Il obtient par sa ténacité puis son prestige personnel une amélioration du statut juridique des abbayes. Lui, ce grand savant, est obligé de s'occuper de choses administratives. C'est qu'il cherche à libérer les abbayes, à faire que les moines soient des savants qui travaillent normalement. Une des premières affaires est suscité là, par un neveu de l'évêque d'Orléans, qui est un ennemi juré de l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire. Ce neveu, qui s'appelle Arnoul, a un château à Yèvre, dans le Loiret. Puis reconnaissant merci le prieuré que l'abbaye de Fleury possède à cet endroit, parce que les abbayes ont des prieurés un peu partout, qui sont des espèces d'églises paroissiales, en fait. En tous les cas, c'est des instruments de civilisation. Et Saint-Abbon fait appel au roi Hugues Capet, le roi capétien, qui envoie son fils Robert. Là, le châtelain, Arnoul, est battu, son château détruit. Alors, l'originalité de l'administration de Saint-Abbon, on peut dire après tout ça, je parle par-dessus bien des choses, c'est son insistance sur la culture intellectuelle, c'est un vrai bénédictin. Il est loin de partager sur ce point les idées de l'abbaye de Cluny, l'immense abbaye, que par ailleurs il admire. De toute façon, il vient de Cluny. Et il voit dans le travail intellectuel un moyen efficace, écoutez bien, de combattre les vices de la chair, puis d'avancer dans la vertu morale profonde et la contemplation de Dieu. Oui, il voit dans le travail intellectuel un moyen efficace. D'autre part, Saint-Abbon a enrichi l'église du monastère, l'église abbatiale. Il a recouvert les autels de plaques d'or et d'argent. Tous les objets d'orfèvrerie sont disparus, naturellement, depuis ce temps-là, il y a longtemps. Mais l'actuelle chapelle, qui s'appelle Saint-Momol, c'est la salle du trésor qui a été construite pendant son abbatiat. Puis au moment de sa construction, elle est la seule salle voûtée que l'on connaisse et l'on y abrite les richesses de l'Église, toujours menacées par des incendies. Oui, des incendies, car il y en a trop souvent. Des incendies, des inondations qui reviennent périodiquement dans la chronique de l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire. Et il semble bien que Saint-Abbon n'a connu à peu près pas d'autres ennuis dans l'administration de son monastère, où son autorité n'est plus discutée et ses anciens élèves, même éloignés de lui, recourent volontiers à ses conseils, car c'est un grand bénédictin, un grand intellectuel, un savant, et un saint. Et aujourd'hui, il est question d'un grand saint, malheureusement inconnu, un abbé bénédictin qui était abbé de Saint-Benoît-sur-Loire, en France, il y a 1000 ans. Il a connu l'an 1000. Il a connu les années préparatoires à l'an 1000, qui sont des années catastrophiques, mais ça n'a rien à voir avec l'an 1000. Vous allez voir, c'est une aventure terrible. On pourrait en faire, comme j'ai dit au début, un film. Autant à cause de son prestige personnel que comme abbé de Saint-Benoît-sur-Loire, notre saint, saint Abbon, doit intervenir dans des questions d'intérêt général où tout l'ordre monastique est engagé. Il a une influence énorme sur l'avenir des moines. Je vous ai parlé de sa corpulence. Ça ne le prédispose pas à devenir un grand voyageur. D'ailleurs, ses goûts l'attirent plutôt vers les études, vous l'avez vu dans la première partie, plutôt que vers l'administration des affaires. Mais quand on est abbé, il faut bien. Et c'est une des raisons d'admirer sa conduite qui est inspirée par le sentiment du devoir à accomplir. Un saint accomplit son devoir d'État. Dès le début de son abbatiat, saint Abbon trouve en face de lui celui qui va rester son adversaire le plus constant, c'est l'évêque d'Orléans. Cet évêque est au nombre des évêques qui ont préparé l'accession de Hugues Capet comme roi de France, en espérant qu'un ancien seigneur féodal qui leur doit son titre de roi les laissera libres d'agir à leur guise. Mais ses espoirs sont vite déçus. L'élection de saint Abbon lui déplaît souverainement parce que c'est un homme honnête, Abbon. L'évêque voudrait soumettre cette abbaye à sa juridiction, en profiter pour en retirer des profits. Saint Abbon sait qu'il n'a rien de bon, justement, à attendre des évêques. Il se tourne résolument vers le pape, qui lui donne constamment raison. Heureusement qu'il y a un pape qui soit honnête pour régler les problèmes de saint Abbon. En 991, le roi Hugues Capet réunit un concile pour déposer l'archevêque de Reims, qui l'a trahi en livrant Reims à Charles de Lorraine, se prétendant au trône, qui est le frère du roi précédent. C'est les rois carolingiens, Charles de Lorraine. L'archevêque de Reims en appelle au pape. Il veut pas être démis de ses fonctions, comme ça, par le roi. Tandis que les évêques qui sont réunis au concile, qui sont des juges, sont influencés par l'évêque d'Orléans, puis prononcent une sentence de déposition de l'évêque de Reims, à laquelle saint Abbon s'oppose autant qu'il le peut, lui. C'est un homme honnête, saint Abbon, un vrai catholique, un vrai abbé bénédictin. Alors le pape refuse de reconnaître la légitimité de la déposition qui a été prononcée au concile contre l'archevêque de Reims. Le pape, encore, est un bon pape. Il donne donc raison à saint Abbon, qui trouve le moyen de rester, malgré tout, en bon terme avec le roi, qui ne veut pas céder. C'est un bon diplomate que ce saint Abbon. Les évêques aussi refusent de céder au pape. Seul saint Abbon défend l'évêque de Reims. En 993 ou 94, les évêques se réunissent en concile à l'abbaye de Saint-Denis, aux portes de Paris, et demandent que le produit des dîmes leur revienne entièrement. Saint Abbon proteste. Ces objections n'auraient eu aucun effet si les hommes de l'abbaye n'étaient entrés dans la salle des séances. Écoutez bien, c'est tragique, et n'en avait chassé les évêques qui coururent se réfugier derrière les murs de Paris, non sans avoir reçu quelques coups dans la bagarre. Il est difficile de croire, je m'excuse, que les moines bénédictins aient été entièrement étrangers à l'émeute. Je vous le dis, les moines n'étaient pas comme les moines d'aujourd'hui dans ce temps-là. Et les évêques n'hésitent pas un seul instant à en rendre saint Abbon, l'abbé bénédictin, responsable. Alors l'évêque d'Orléans, plus acharné que les autres, compose contre lui, saint Abbon, un violent pamphlet qu'il appelle « Décartilaginé ». Ça fait penser aux journaux étudiants. Ça s'appelle le cartilage, où ils se moquent des moines qui, au lieu d'avoir la consistance des os, sont mous comme du cartilage. Ils étaient bien jeunes de caractère, ces gens, hein, certains d'entre eux. Pire encore, cet évêque tend un guet-apens sur la route de Tours. Et Saint-Abbon va fêter à ce moment-là la fête de Saint-Martin, le 11 novembre, à Tours, où il y avait un grand monastère qui est tout en ruine maintenant. Et Saint-Abbon n'échappe à ce guet-apens que de justesse, imaginez, l'évêque voulait s'emparer de ce moine et peut-être le faire tuer. Alors, une partie de son escorte tombe aux mains, malheureusement, des assaillants. L'escorte de Saint-Abbon. Toutes sortes de calomnies courent sur le compte de Saint-Abbon, abbé de Saint-Benoît-sur-Loire. Saint-Abbon, qui ne peut tolérer ces calomnies, rédige une apologie qu'il adresse au roi Hugues Capet pour expliquer sa position. Il n'a pas peur d'écrire, c'est assez curieux, il y a 3 degrés parmi les hommes. Le premier est celui des laïcs, le second celui des clercs, des prêtres, le troisième celui des moines. Entre ces degrés, écrit Saint-Abbon, existent des différences. Le second, celui des clercs, des prêtres, est meilleur et plus saint que le premier, celui des laïcs. Le troisième, celui des moines, est meilleur que le second. Mais il est logique, Saint-Abbon. C'est pas un mauvais moine, il est un saint. Il est logique avec lui-même. Abbon est terrible pour les moines infidèles, à leur vue. C'est ce qui va lui jouer un mauvais tour, d'ailleurs. Et entre contreparties, il juge inadmissible que des clercs, souvent simoniaques, qui vendent les sacrements, qui vendent des charges, qui cherchent toujours à faire de l'argent, et qui sont de mœurs douteuses, qui ont des maîtresses, ou même parfois des amants, qu'ils aient la prétention de diriger les moines. Alors Saint-Abbon revendique énergiquement pour les moines le droit de percevoir des dîmes, de l'argent, dont ils font un meilleur usage, selon lui, que les prêtres séculiers. Voici où en est cette querelle entre le clergé et les moines. Je vous raconte tout ça pour vous montrer que dans l'Église, il y a des moments difficiles. Il y a des saints parmi eux. Et dans ce 10e siècle, qui est un des siècles les plus pénibles, il se passe des choses merveilleuses dans le cœur de ce Saint-Abbon et de bien d'autres saints. Et désormais, Saint-Abbon n'a plus d'autre désir que d'échapper entièrement à la juridiction des évêques, dont il ne connaît que les abus. Alors il se prépare à demander un privilège d'exemption. Exemption des monastères vis-à-vis des évêques. Qu'il relève directement du pape, quoi. À l'automne de 995, on approche très près de l'an 1000, Saint-Abbon, qui a maintenant 50 quelques années, 55 ans, que le moment est venu d'obtenir du pape les faveurs qu'il souhaite, quoi. Alors, pour ça, il se met en route pour Rome. Mais son disciple, là, est moins, comme je vous en ai parlé, écrit, mais il ne se trouve pas sur le siège apostolique un pape tel qu'il l'aurait voulu et tel qu'il aurait dû l'être. Il s'aperçoit en effet que le pape est d'une honteuse cupidité et fait payer tous les actes qu'il délivre. Dégoûté, Saint-Abbon visite pieusement les tombeaux des saints. Il achète de la belle soie pour faire des vêtements liturgiques, c'est un bénédictin. Il rentre chez lui en attendant un moment plus favorable. Or, qui était ce pape épouvantable? C'était Jean XV, qui a été quand même le premier pape à faire le procès puis la canonisation d'un saint, Saint-Huldéric, pour faire que les saints ne soient pas simplement nommés par la faveur populaire. Que ce soit sérieux. Donc, ce pape Jean XV meurt heureusement, au printemps suivant, au mois de mars. Et son successeur, le pape allemand Grégoire V, inaugure son pontificat en renforçant les mesures prises par son prédécesseur. Il frappe de suspense tous les évêques qui ont pris part au concile. Saint-Abbon comprend que cette fois, il lui sera facile d'obtenir l'exemption, là, empêcher que les évêques dévalisent les monastères. C'est une décision pontificale qui le confirme bientôt dans son opinion. Alors, le roi Hugues Capet meurt le 24 octobre 996, brouillé avec le pape Grégoire V. Son fils et successeur, Robert, espère qu'en se montrant conciliant, eh bien, il obtiendra de garder sa femme illégitime, Berthe. Pensez-vous, Grégoire V, le pape, ne se laisse pas intimider. Hein? Et en février 997, à Pavie, il intime au roi de France l'ordre de faire cesser le scandale et de renvoyer cette pseudo-épouse Berthe. Le roi Robert pense que Saint-Abbon serait un excellent négociateur. Il lui demande de partir en septembre 997. Alors Saint-Abbon l'écoute, il se rend à Rome. Il est tout étonné de ne pas voir le pape Grégoire V qui a été chassé un an plus tôt par une révolte. Imaginez, c'est les difficultés de l'Église à ce temps-là. Hein? Il a été remplacé par un intrus, Jean XVI. Alors Saint-Abbon part à la recherche du vrai pape. Il finit par le trouver à Spolète. L'entrevue est très cordiale. Heureusement. Alors le pape Grégoire, réinstallé à Rome par l'influence de Saint-Abbon, charge Saint-Abbon de porter le pallium, vous savez, cette espèce de collier de laine noir et blanc, là, à l'évêque Arnoux de Reims, qui devra réintégrer son siège, et de sommer le roi Robert de se séparer de sa Berthe au plus vite. Et là, le roi admet sans trop de peine le premier point, mais il est très mécontent de ne pouvoir faire valider son mariage, il tient à sa Berthe. Alors il promet d'obéir à Saint-Abbon, croit pouvoir écrire au pape que ses ordres vont être exécutés. Là, le pape félicite le négociateur, mais en fait, le roi Robert et sa femme, ou sa pseudo-femme Berthe, ne se séparent que plusieurs années après, à la suite de nouvelles sommations. Et quant à Saint-Abbon, il semble s'être assez peu soucié de déplaire à son roi. Sa conscience lui prescrit, c'est un saint, sa conscience lui prescrit de faire respecter les lois ecclésiastiques et de procurer le bien des âmes, le bien des âmes, le bien des âmes. C'est dans cette perspective qu'il faut comprendre ce précieux privilège que le pape lui accorde. Le 13 novembre 997, c'est l'anniversaire, et qui a eu le grand bénéfice de ce voyage. Qu'est-ce que c'est la récompense que le pape lui accorde? Mais Saint-Abbon est reconnu comme le premier des abbés de monastères de la Gaule entière. C'est une qualification purement honorifique, mais ça fait ressortir son prestige personnel. Il est interdit à toute personne, surtout aux évêques, de troubler son monastère et d'y exercer une contrainte. Enfin, l'évêque diocésain ne peut venir au monastère où il célébrait la messe sans y être invité. Oui, il ne peut refuser d'ordonner prêtre un moine digne de l'être. Il ne peut pas revendiquer la moindre autorité sur ceux qu'il a ordonnés, etc. Alors les privilèges, ça ne soustrait pas entièrement les moines à l'autorité des évêques. Il marque cependant, ses privilèges, un grand progrès dans le sens de l'exemption, comme je vous ai dit. Hein. L'abbaye de Cluny, grande abbaye, ne tarde pas à le compléter pour éliminer toute intervention des évêques. Saint-Abbon, lui, semble avoir été satisfait car il voit là un moyen suffisant de maintenir, quoi, la régularité là, de la vie contemplative des bénédictins. Puis de plus en plus, on fait appel à Saint-Abbon pour régler des affaires épineuses. C'est sa modération puis sa prudence qui font merveille. Hein? Mais une catastrophe se prépare. Elle va se dérouler au monastère de la Réole, dans le diocèse de Bazas, en Gironde, c'est-à-dire en Gascogne, qui est un pays séparé de la France. C'est au sud-est de Bordeaux. C'est un monastère qui dépend de Saint-Benoît-sur-Loire. Il se passe dans ce monastère des affaires étranges, et Saint-Abbon ne manifeste aucun amour pour ce monastère. Et on raconte d'ailleurs qu'aucun abbé de Saint-Benoît-sur-Loire n'a longtemps survécu même à un voyage en Gascogne dans ce monastère. Et quand on parle à Saint-Abbon du monastère de la Réole, il répond en riant, parce que c'est un homme de bonne humeur, qu'il s'y rendra quand il en aura assez de la vie et qu'il sera prêt à partir pour le ciel. Alors, des événements tragiques vont survenir. Car ce monastère de la Réole, R-E accent aigu, O-L-E, en Gascogne, donc au sud-est de Bordeaux, comme je vous ai dit. Alors, durant l'été 1004, c'est l'année de sa mort, hein, Saint Abbon estime, là, lui, l'abbé de Saint-Menant-sur-Loire, qui est, en somme, le superviseur du monastère de la Réole, mais il croit qu'il ne peut plus différer sa visite. Alors il y va, mais il reste pas longtemps. Il prend quelques dispositions là pour ramener l'observance dans ce monastère qui est vraiment décadent. Il laisse quelques moines de son propre monastère pour continuer la réforme. Mais ces moines bénédictins de Saint-Menant-sur-Loire sont tellement maltraités par les Gascons qu'ils ne tardent pas à rentrer à Saint-Benoît-sur-Loire. Alors Saint-Abbon envoie un second groupe qui bientôt expédie un message pour expliquer tous les sévices qu'ils ont à supporter, puis demande l'autorisation de quitter la place puis de retourner à Saint-Benoît-sur-Loire. Alors Saint-Abbon, accompagné de plusieurs moines, se décide à retourner à la Réole. Il passe par Poitiers. L'abbé puis les moines de Saint-Menant-sur-Loire arrivent à la Réole le 9 novembre de l'an 1004. Le lendemain, c'est très calme. Pour la fête de la Saint-Martin, le 11 novembre, Saint-Abbon chante la messe solennelle dans le monastère. Le soir, à propos de la nourriture des chevaux, commence la querelle entre les Gascons et les compagnons de Saint-Abbon, qui ne s'entendent pas. Il faut dire que les Gascons ont un tempérament fier, hâbleur, vantard, dit-on dans les dictionnaires. Je m'excuse auprès de ceux qui s'appellent Gascons et qui m'écoutent, mais c'est ce qu'on dit souvent, que les Gascons sont d'un tempérament comme ça. Alors, il y a une dispute que les anciens ont beaucoup de peine à apaiser. Alors, Saint-Abbon exhorte ses moines à la patience, jusqu'à l'arrivée du comte, qui gère la région, et d'un avocat. Le 12, le lendemain de la Saint-Martin, un dimanche, Saint-Abbon célèbre encore la messe. Il visite le monastère, puis il admire l'endroit. Mais le lundi 13 novembre, c'est l'anniversaire de l'an 1004, Saint-Abbon réprimande un moine de ce monastère de la Réole, qui s'appelle Anezan, qui sans permission sort souvent du monastère pour aller manger ailleurs. Oh, oh. Le coupable ne répond rien au père abbé de Saint-Benoît-sur-Loire, Saint-Abbon. Mais il montre qu'il est furieux à ceux qu'il rencontre ensuite. On entend tout à coup de grands cris poussés par des femmes. C'est à l'extérieur du monastère. Le moine Anezan déclare, « On va dire que c'est moi qui ai fait naître cette bagarre ou cette révolte. » Si c'est comme ça, et si c'est moi qui ai fait naître tout ça, si c'est ça que vous craignez, venez donc. Alors, il y a un moine de Fleury qui demande à Anezan de venir apaiser le tumulte. Anezan ne bouge pas, il veut pas y aller. Tandis que les moines de Fleury se rendent, eux, sur les lieux de la bagarre, parce que les Gascons puis les Français se sont encore disputés. Il y a un Français qui a donné un violent coup de bâton à un Gascon qui est tombé par terre. Hein. Les autres ont ramassé des pierres, puis il y a une bataille générale qui s'est déclenchée. Alors Saint-Abbon, qui est à l'intérieur du monastère, et qui est alors dans le cloître, là, il entend le bruit, mais alors il sort du monastère pour apaiser les siens. Et à peine est-il arrivé qu'il reçoit un coup de lance dans les côtes. Qu'est-ce qu'il dit? En rebroussant chemin vers l'hôtellerie du monastère, il dit, celui-là a fait les choses sérieusement. Oh, il se rend au monastère, où loge son escorte, les gens qui l'accompagnent. Un de ses moines court après lui, puis il voit une flaque de sang sur le seuil. Alors il demande qui a été blessé, et Saint-Abbon lui dit, c'est moi. Il lève le bras pour montrer sa blessure, et le sang s'échappe à flots par la manche de sa coule. Vous savez, ce grand vêtement qu'ils portent au-dessus de leur costume de moine. Et il a la force quand même d'envoyer le moine essayer de calmer les combattants. Puis, soutenu par ses disciples, Saint-Abbon dit, « Ayez pitié, oui. Ayez pitié, Dieu Tout-Puissant, de mon âme, de ce lieu, de la communauté que par votre grâce j'ai gouverné jusqu'à maintenant. » Et là, épuisé par le sang qu'il a perdu, il meurt doucement. Mais la bataille ne s'arrête pas là. Les Gascons envahissent le monastère. Adélard, qui est le chambrier de Saint-Abbon, meurt le lendemain des coups qu'il a reçus. Saint-Abbon, finalement, et est enseveli le mercredi 15 novembre 1004 dans la crypte de l'église du monastère de la Réole, devant l'autel de Saint-Benoît. Les moines de Fleury-sur-Loire, ou de Saint-Benoît-sur-Loire, comme on l'appelle aujourd'hui, rentrent aussitôt dans leur abbaye. Et la Saint-Benoît d'hiver, qui se célébrait dans ce temps-là le 4 décembre, attire de nombreux abbés et arrive Saint-Odilon de Cluny, grand abbé, qui a l'intention de consulter Saint-Abbon, qu'il connaît de réputation, mais sa mort le surprend douloureusement. Et personne ne songerait évidemment contester le titre de martyr que déjà ses moines lui ont donné à Saint-Abbon dans la lettre qu'ils ont rédigée pour annoncer leur malheur. On rapporte quelques miracles, d'ailleurs, qui sont obtenus par l'intercession de Saint-Abbon aussitôt après sa mort. Sa fête est célébrée le 13 novembre à Saint-Benoît-sur-Loire, Saint-Benoît de Fleury, dès le 12e siècle. Mais elle ne s'est pas répandue ailleurs au Moyen Âge. Le monastère de la Réole, en Gascogne, garde un temps ses reliques. En 1194, Richard Cœur de Lion, le roi, ordonne la construction d'une nouvelle forteresse qui va occuper l'emplacement du monastère. Une nouvelle église est donc construite et les reliques sont placées dans la niche du mur du côté de l'épître. Mais ça n'a qu'un temps. Quelques siècles plus tard, elles sont jetées, profanées finalement par les protestants en 1577. L'ancienne église monastique est aujourd'hui une église paroissiale. Et c'est ainsi que se termine cette étrange vie que j'ai osé vous raconter, cette étrange vie d'un saint abbé bénédictin qui a vécu à une époque très troublée de l'Église, une époque terrible et grandiose à la fois, où les moines se sont montrés toujours dans un esprit civilisateur, ils marchent vers une civilisation plus franche, plus totale. Vous savez, la tradition bénédictine, c'est le fruit de l'Esprit Saint. En elle nous parvient le souffle qui est issu de Dieu, qui a animé, je dirais, moi qui suis oblat Saint-Benoît, notre père Saint-Benoît, et tous ceux qui ont vécu à l'école de sa règle, et aussi les traditions bénédictines particulières doivent-elles être imprégnées au travers des siècles d'esprit bénédictin. L'esprit, c'est leur mesure. C'est aussi leur vie. Et sans cet esprit, ces traditions se dégradent, comme c'est arrivé à cette époque, pour n'être plus que des routines machinales. Mais heureusement, il y avait des saints abbons. Et saint Benoît fait consister le 8e degré d'humilité dans sa conformité à la tradition. Et cette conformité, faite d'humilité, de foi, de soumission, est également à base d'intelligence et de courage. C'est pas une forme de résignation qui s'accommode de ce qui est tout fait. Elle n'est pas davantage une forme de paresse ou d'impuissance à trouver du nouveau. Non, elle n'est pas la démission d'une volonté qui s'avère incapable de réaliser une idée personnelle. Mais elle est adhésion consciente, réfléchie, joyeuse et amoureuse à la réalisation d'une idée, d'un projet, d'un dessein, d'une institution qui nous dépasse et qui se perpétue par l'intermédiaire des moines et j'espère des oblats aussi, comme par tous ceux qui ont précédé, puis par tous ceux qui suivront. Se soumettre à la tradition, c'est entrer pour y être admis dans une maison, dans une famille, pour s'y incorporer, pour y prendre possession d'un héritage qu'on ne conserve qu'en le transmettant. Il me semble que c'est doux de se sentir ainsi appuyé sur tout un passé. Tout un passé. Venez, Esprit Saint, qui a veillé sur l'ordre de Saint-Benoît, visitez les âmes, oui, visitez les âmes de vos fidèles, et remplissez de la grâce d'en haut les cœurs que vous avez créés.